Dimanche 17 mars, c'était Rouler Rillettes. Des voitures et des rillettes, troisième rassemblement de véhicules anciens. Une façon de mener son véhicule à bon port, si je puis me permettre. Cédric Delaporte nous expliquera dans un premier temps le sens de cette initiative d'un rendez-vous régulier de véhicules anciens à Saint-Rémy-de-Sillé en collaboration avec l'atelier Jantaine. Et justement, en ce dimanche de mars, c'est le printemps des rillettes et Jean-Marie Fontaine vous livrera des paroles d'experts en matière de rillettes. On partira sur le parking en commençant petit format, le 43e, avec les voitures miniatures de Dominique Touchard. Et puis, de véhicule en véhicule, mais sans l'image, on découvrira une 404 vedette de cinéma, une superbe Cougar Mercury, un véhicule militaire Renault des années 60, un tube Citroën de 72, le fameux 11 tolé, une 4L solidaire, et puis enfin, en conclusion, ce sera avec Gérard Galpin, maire de Sillé et chevalier de la confrérie des Rillettes. Mais allons tout de suite dans ce dimanche matinal sur le parking de l'atelier Jantaine, sur la rocade de Ciel-Guillaume. Cédric, c'est parti, il est autour de 11h là, grosso modo, à peine 10h30 et le parking est déjà bien rempli. Alors qu'est-ce qui se passe là sur le parking Jantaine?
Eh bien, bonjour à vous. En fait, troisième dimanche du mois de mars, c'est le rassemblement de véhicules anciens organisé par Vintage Car à Conly, qui est tout simplement un petit rassemblement entièrement gratuit pour les propriétaires et pour les curieux de véhicules anciens, de venir partager un moment de 9h30 à midi sur le parking pour échanger la passion automobile.
Alors donc, on te connaît comme, on va se tutoyer, ça va être plus simple, on te connaît comme un spécialiste des véhicules, tu aimes la mécanique ancienne, tu viens de t'installer ici, sur Conly, explique-nous un petit peu ce qu'il y a comme marché autour de ça, parce qu'on a du mal à imaginer, et pourtant, visiblement, il y en a.
Alors, effectivement, moi, je me suis installé en tant que restaurateur de véhicules anciens dans la commune de Conly. On a acheté un garage, on est en train de tout mettre en place. Et c'est parti de l'idée que nous, ça fait à peu près 15 ans qu'on est dans la voiture ancienne. Donc, j'ai fait des Paris-Pékin en voiture ancienne, j'ai fait de l'assistance. Et beaucoup de personnes m'ont dit, mais on trouve personne aujourd'hui pour réparer des véhicules anciens et faire ça sérieusement, organiser un peu des événements, des balades, des machins et tout. Donc en fait, l'idée était devenue de créer Vintage Car Service. Donc service, le mot service pour tout ce qui est événementiel, rassemblement et tout ça. Et aujourd'hui, la voiture ancienne est en plein boom. C'est beaucoup de personnes se disent que ça revient à la mode. Et rouler en deux chevaux aujourd'hui, c'est à l'époque c'était usant et aujourd'hui maintenant c'est très très fun. Donc ça fait partie des voitures et un marché que tout le monde veut en fait se reprocurer en fait comme à l'époque.
Alors ici donc l'idée c'est que les gens viennent avec leur voiture tranquillement, ils s'installent, c'est libre d'accès. Alors explique-nous un peu comment ça fonctionne, parce que ça fonctionne et il y a du monde et il y a des voitures qui sortent, c'est assez incroyable.
Alors oui, ça fonctionne. On a lancé l'idée au mois de septembre l'année dernière. Vintage Car a ouvert ses portes officiellement au mois de novembre 2018 et l'idée était d'à partir de 2019, tous les troisièmes dimanches de chaque mois, faire un rassemblement. Mais où? Donc c'était la grande question. Et au début, je voulais le faire donc sur le parking de Vintage Car, sauf que on a encore des travaux à faire, on a encore un peu d'enrobé à mettre au niveau autour du hangar. Puis bon, l'hiver, voilà, s'il pleut, c'est pas beau, donc c'est un peu boueux, donc c'est pas possible en fait pour accueillir ce genre de voiture. Et en discutant avec l'atelier Jantaine, qui a un parking de 80 places, on a trouvé un commun accord de lui emprunter son parking et en échange, lui ouvre ses portes le dimanche matin. qui nous permet en plus d'avoir du café à disposition gratuitement pour les participants curieux et propriétaires de voitures, et un espace sanitaire au cas où s'il y a besoin, contrairement à tous les autres rassemblements de parking de supermarché, quoi.
Alors comment vous identifiez d'où viennent les gens, parce que chacun arrive, s'installe, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de fiche, il n'y a rien. Ils viennent d'où, donc les collectionneurs uniquement du coin ou de beaucoup plus loin?
Alors les collectionneurs, il y en a beaucoup dans le coin. Il y a beaucoup de personnes qui ont des voitures anciennes cachées dans leur garage, qui servent quasiment jamais parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de sortir la voiture. Et en fait, cette idée permet de se dire que tous les gens, tous les troisième dimanche de chaque mois, ils peuvent sortir leur voiture, exposer et partager en fait cet événement avec d'autres passionnés. Donc,
d'autant qu'il y a une règle, si on a une voiture ancienne, il faut la faire rouler au moins une fois par mois, c'est ça grosso modo?
T'as tout à fait compris. Parce que avoir une voiture ancienne chez soi, dans son garage, c'est très bien, mais l'idéal c'est qu'elle roule de temps en temps, parce que si elle roule pas pendant 5-6 mois, on a toujours des frais après de remettre en route, on a toujours une batterie qui se décharge, on a toujours un pneu qui se dégonfle, on a toujours plein de trucs. Donc c'est une voiture ça vit, donc faut vivre avec elle et puis faut la sortir de temps en temps.
Alors d'après ce qu'on peut constater, c'est que c'est aussi relativement aussi intergénérationnel, c'est-à-dire que il y a des anciens qui ont connu les voitures à l'époque de leur jeunesse, et puis il y a des nouvelles générations sur les voitures. Et c'est quoi les coups de cœur aujourd'hui chez les jeunes? La deux chevaux, je suppose, mais peut-être pas que la deux chevaux.
Alors aujourd'hui, oui, effectivement, t'as un panel de générations qui va de 18 ans à 70 ans, 80 ans, c'est excellent. Et tout le monde s'échange en chambre. En fait, il n'y a pas de frontière d'âge par rapport à la voiture ancienne. Donc, du coup, il y a un échange énorme à ce niveau-là. Et aujourd'hui, la voiture coup de cœur des jeunes, c'est à deux chevaux, t'as raison. Il y a le 4L, 4L Trophy, tous les jeunes maintenant partent dans le désert. Maintenant, il y a le 205 Africa Red. Donc, la 205 redevient à la mode, qui était déjà à la mode, qui s'est pas trop perdue, mais bon, elle a disparu, maintenant elle revient. On va dire que toutes les voitures en petit budget d'époque sont devenues abordables aujourd'hui et facilement réparables.
Aujourd'hui, une deux chevaux, on va dire, roulante, ça vaut plus cher qu'une deux chevaux à l'époque où on l'achetait dans les années 60 ou 50?
Alors déjà, c'était en France, c'était de l'ancien France.
L'ancien France avant.
C'est pas du tout comparable, mais c'est sûr que c'est plus cher qu'à l'époque. Si on compare tout, après les salaires sont plus élevés aussi, bon voilà. Mais aujourd'hui, une deux chevaux correcte, roulante, on est entre 6 000 et 8 000 euros pour une deux chevaux propre. Après, une deux chevaux avec des réparations, plutôt entre 3-4 000 quoi, à peu près. Puis en état exceptionnel, en plus si c'est un modèle très limité, ça peut s'envoler. Hein. Ça peut s'envoler et toucher les 15-16 000 pour une deux chevaux quand même.
Alors l'idée c'est aussi qu'il y ait un peu d'animation. Donc par exemple aujourd'hui, on est dans les rillettes, c'est pour huiler les bielles ou pour déguster?
Alors, si vous mettez des rillettes dans le moteur, je suis pas convaincu que ça fonctionne bien. Ça va être un peu gras. Donc, l'idée, c'était le printemps des rillettes et faire ça avec l'atelier Jantaine, qui lui est renommé aussi pour ses rillettes et tous ses pâtés et tout ça. Donc, c'est original. Et ce matin, on propose une dégustation gratuite pour tout le monde, en fait. C'est entièrement gratuit pour les propriétaires, les curieux, s'il y a besoin. Il n'y a aucun souci. On propose ce service-là. Et ils ont aussi leur petit commerce d'ouvert pour tout ce qu'il faut, quoi.
Alors, ça c'est donc un rassemblement. Est-ce qu'il y a une idée d'une journée d'itinérance, de déplacement avec les voitures?
On va y aller crescendo, c'est-à-dire que 2019, on fait les rassemblements pour que ce soit ancré dans la tête des gens, de se dire tous les troisièmes dimanches chaque mois, parking Jantaine, rassemblement. Voilà. Une fois que tout est en place, on a dans notre petite valise, on a des rallyes en fait touristiques Sarthe qu'on a déjà organisé au mois de novembre pour faire une journée test qui fonctionne très très bien. On va remettre ça en place peut-être septembre, au beau jour. Après, on aimerait aussi, donc 2019, faire les rassemblements et faire des thèmes. C'est-à-dire que janvier-février, on a regardé ce que ça donnait. Mars, là, on va faire donc le printemps rillette. Avril, on a une idée sur l'histoire un peu de Cyril Guillaume, sur du patrimoine. Et mois de mai, on a en projet de faire les 100 ans de Citroën, puisque la 100 ans de Citroën, normalement, c'est au mois de juillet. Mais on veut marquer notre coup, en fait, de faire quelque chose au mois de mai. Donc, troisième week-end du mois de mai, troisième dimanche du mois de mai, ça sera sur les 100 ans de Citroën. Le mois de juin, ça sera le même week-end que les 24 heures du Mans. Et on arrivera à avoir plein de participants anglais et français qui sont dans les campings avec leurs belles voitures, en fait, qui font un petit passage par chez nous.
Et toujours à l'atelier Jantaine.
Toujours à l'atelier Jantaine.
Il y a un jour, il n'y aura plus assez de place. 50 la première fois, 70 la deuxième. Là, c'est bien parti, là, visiblement.
Bah, je pense qu'on approche les 50 déjà, et sachant que le pic est à entre 11h et 11h30, donc après j'ai pas de prétention ni rien, mais je pense qu'une cinquantaine de voitures par rassemblement, c'est très très bien, surtout pour une petite commune comme la nôtre. Et voilà, que je préfère avoir moins de voitures et que tout le monde s'entende très bien et que tout se passe à merveille que faire de l'usine, quoi. Donc après,
En gros, c'est ce qui se passe, hein. Chacun parle de sa voiture, on parle un petit peu de tout. C'est ça qui finalement, il y a un peu de lien qui se fait là. C'est pas uniquement la voiture, quoi. C'est les gens se causent, c'est
voilà.
Bien.
C'est de la rencontre avant tout et c'est de l'échange entre passionnés.
Allez, bonne continuation, Cédric. Merci.
J'ai connu Mimi, j'ai voulu l'épater. Oui, mais pas riche, alors que faire? Lui offrir des bijoux, il n'y faut pas songer. Et c'est pas ça que les femmes préfèrent. Maintenant, elles sont au sport, vous devinez alors. Avec très peu d'argent, ce que j'ai depuis quelque temps. Pour promener Mimi, ma petite amie Mimi. Et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Je l'ai payé 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Elle fait autant de bruit qu'un gros camion, 5 tonnes. Les gens m'entendent venir, j'ai pas besoin de klaxon. Mais je me pousse du faux col, car ça c'est de la bagnole. Ce n'est pas du taco, j'ai une auto.
Monsieur Fontaine, tout le monde dit maintenant Monsieur Jantaine finalement.
Oui,
hein, on connaît mieux finalement le nom de l'atelier Jantaine. Mmh. Alors aujourd'hui là, il y a des vieilles voitures qui sont là, des collectionneurs, et puis il y a des rillettes. On est dans le printemps des rillettes. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que ce printemps des rillettes.
Alors le printemps des rillettes, en fait, ça a été mis en place par le syndicat des charcutiers de la Sarthe, et puis pour promouvoir les rillettes sur le département. Donc ça dure pendant 15 jours. Et chacun fait une manifestation selon ce qu'il a chez lui. Donc nous, aujourd'hui, on a profité de l'occasion pour faire le printemps des rillettes. C'est-à-dire qu'on fait déguster nos rillettes, on fait une petite promotion sur les pots, et puis une petite animation autour de ça. On profite aussi d'avoir les vieilles voitures. Donc du coup, on a fait le jeu, ça s'appelle rouler rillettes, évidemment, comme ça. Donc il y a sur le département plein de manifestations d'organisées. Et qui permet de promouvoir le port sartois, le port sénomand et les rillettes en général.
Voilà. C'est quoi des rillettes? Expliquez-nous comment on fait des rillettes, parce que tout le monde ne le sait pas. On mange, mais on ne voit pas dans la cuisine. Expliquez-nous.
Donc en fait, les rillettes, c'était fait un petit peu à l'origine pour conserver le porc. Donc c'est des morceaux de porc, du gras de porc et des morceaux de porc revenus dans la graisse de porc. Et ensuite, qu'on laisse cuire très très longtemps, en général une dizaine d'heures. Tout doucement, comme un confit en fait, pour que ce soit confit. C'était à l'origine aussi un moyen de conservation du porc, un petit peu différent que de mettre le porc dans des saloirs qui étaient quelquefois difficiles à manger directement. Les rillettes à l'origine, c'était fait pour conserver le porc, comme beaucoup de recettes d'origine d'ailleurs, hein. C'est souvent on voit aussi dans le sud-ouest les confits de canard, c'était fait pour conserver le canard l'hiver pour pouvoir les manger plus tard. Et les rillettes, c'est un petit peu la même chose.
Alors pourquoi d'un fabricant à un autre on n'a pas le même goût de rillettes?
Alors, d'un fabricant à un autre, on a aussi des origines de porcs différentes. Quelquefois, on a des variantes entre des porcs fermiers, mais dans les porcs fermiers, vous avez plusieurs variantes. Et puis, j'ai l'impression que chacun a un peu sa recette. Donc, il y a une recette de base, celle que je viens d'énumérer. Et puis, après, il y a un tour de main. Hein.
Le chaudron, les épices, alors, le tour de main, les temps de cuisson, les vitesses de cuisson.
Ouais, alors, les vitesses de cuisson et les types de marmites aussi utilisés. Pour des gens qui travaillent sur du gaz, on a encore ou de l'électrique, on a des variantes un petit peu. Et puis, bah, c'est ce qui fait aussi le charme des rillettes. Ça tentait de dire, si elles avaient toutes le même goût, ce serait moins drôle. Hein, comme si tous les vins avaient le même goût. On dirait, bah oui, bon, c'est du vin, quoi.
Alors, c'est mieux quand il y a des morceaux dedans.
Moi, j'aime bien quand il y a des morceaux. Après, qu'elles soient pas trop broyées. Et donc, nous, on les écrase encore à la fourchette. Ah, ouais. Et c'est vrai qu'on, du coup, on se retrouve avec des morceaux, quoi.
Mais vous, ici, à l'atelier Jantaine, vous ne faites pas que des rillettes de porc. Non.
Donc nous, on fait des rillettes de porc, on fait aussi beaucoup de terrines et pâtés, des plats cuisinés, de la marmite sartoise en pot stérilisé, et puis une belle gamme de confitures et de confiseries.
Avec le poulet, vous faites des rillettes aussi de poulet de loué, c'est
oui,
ça
oui.
C'est pas la même viande, c'est une viande plus, plus tendre, plus fragile. C'est les mêmes modes de préparation?
Non, c'est pas les mêmes modes de préparation. Mais en revanche, dans les rillettes de poulet, on a 50% de porc hein, dedans. Donc du coup, on a quand même la moitié de la base de porc.
C'est ce qui donne l'architecture, la texture.
C'est ce qui donne le gras surtout. En fait, parce que si on fait des rillettes, on fait aussi également des rillettes de lapin. C'est très difficile de faire des rillettes de lapin 100% lapin. Ça, on peut le faire, mais bon, souvent on va manquer de gras, quoi. Ouais.
Okay. Et donc là ici, c'est tous les dimanches, des troisièmes dimanches de chaque mois que vous avez mis au point cette opération avec Cédric et Vintage Car. Qu'est-ce que vous en pensez de cette façon dans une petite ville comme ici de monter une opération de ce genre?
On est assez content avec Cédric parce qu'en fait on part de rien. Moi l'idée c'était de prêter mon parking et puis d'ouvrir le magasin le troisième dimanche de chaque mois. Et puis en fait on est content, c'est d'avoir que tous les gens viennent. Le fait aussi que ce soit un site gratuit, que ce soit c'est la balade du dimanche quoi. Et j'espère que ça va rester un petit peu dans la norme. Et puis quand on va avoir les beaux jours, je pense aussi qu'on va avoir des gens qui vont profiter à la fois de Vintage Car et de notre organisation du matin. Et puis, je pense de finir l'après-midi au lac avec un pique-nique. Je le vois bien comme ça.
Et vous-même, vous avez un véhicule ancien?
Oui, j'ai une 4L et une vieille Land Rover de 1967.
Et la 4L de quelle époque?
87, la plus récente.
Très bien. Alors moi, je suis venu pour faire l'interview. Je ne suis pas venu, comme on dit, pour beurrer les sandwichs chez les tontons flingueurs. Vous étiez par contre en train de beurrer les petites tartinettes avec les rillettes. On va vous laisser continuer.
Merci.
Merci à vous.
Bonne journée à vous.
Au revoir. Dominique, tu es là à chaque fois pour être avec les voitures anciennes, mais toi, c'est avec des voitures miniatures. Explique-nous un petit peu depuis quand tu as cette passion pour les véhicules miniatures.
Alors les véhicules miniatures, ça a démarré, je pense qu'il y a au moins 35 ans maintenant. Hein. Ouais. Et puis là, depuis un moment, avec Cédric et tout ça, je me suis mis un peu dans le vintage. Donc ce qui correspond aujourd'hui à ce que j'ai exposé, c'est-à-dire que là, j'ai exposé des anciennes miniatures avec des anciennes façades de garage, de commerce et tout ça, pour montrer un peu comment c'était dans les années 70-80.
Parce que finalement, la petite voiture toute seule, c'est bien, mais la mettre dans un contexte, c'est quand même plus vivant, quoi.
Bah voilà, ça permet de découvrir, on dit « Ah bah oui, tiens, dans le temps, je me rappelais, il y avait ça et tout ça, donc j'essaye de rapprocher au plus comment ça existait ça, avant. »
On retrouve par exemple l'ancien logo Esso, le logo Yako, et puis plein d'autres. Les voitures aujourd'hui comme ça, ça se trouve facilement, non?
On arrive encore à en trouver facilement, sauf que les prix commencent un petit peu à flamber pour certaines.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que ça commençait, les petites voitures au 1,43, qui sont quand même pas grandes, comme celles qui sont exposées aujourd'hui, il y en a certaines qui valent 200, 250 euros, hein, et même plus.
Et de plus, je suppose qu'il y a aussi des marques de fabricants, je sais pas, les Dinky Toys ou Norev, enfin je sais pas. Ouais.
Moi là, les Dinky Toys, il n'y en a pas. Hein. Là, c'est que du Norev, du Solido, hein, parce que Dinky Toys, c'est un peu trop cher, donc je les expose pas.
Ah oui, voilà, c'est introuvable alors. Et il y avait Gorky Toys aussi, je crois, à l'époque.
Oui, et aussi, mais ça a été racheté, tout ça. Mais non, les Dinky Toys, moi j'en ai pas vraiment beaucoup, mais celles que j'ai, elles sont pas exposées. Hein,
parce que... Alors clairement, là, on est dans les années plutôt 60, là, hein, visiblement.
60 et 70. À peu près. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Parce que là, oui, on a quand même, on reconnaît quand même le vieux H, les 4L fourgonnettes, la Dynap en art, le nez de cochon qu'on appelait le Peugeot. Ouais. Voilà, la Dyna aussi, le coupé Dyna. Tout ça. Là, il y a la vieille vedette de chez Renault, les R5, la Estafette, une Diane, une 404, 204 break, R10, R5, 305,
tout. Et puis on retrouve la Mi 8.
Voilà, et là on retrouve la Mi 8.
La Mi 6, pardon.
La Mi 6 et tout ça. Et là c'est une expo avec en façade...
L'atelier Jantaine.
L'atelier Jantaine, voilà, c'est pour les remercier.
Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que donc c'est une passion, mais une passion qui doit être un peu encombrante. Où est-ce que vous mettez toutes ces voitures chez vous ?
C'est très encombrant. Donc là, j'ai réussi à trouver des grands cartons que je puisse ranger tout ça, parce que là, ça devient quand même un peu impossible. Mon histoire de diorama, parce qu'on appelle ça des dioramas.
Ouais.
Donc je mets ça dans les cartons, tout ça, pour les expos. Comme ça, c'est prêt à partir. J'ai tout collé, tout est rangé, numéroté, tout ça. Je connais. Et puis hop, dès qu'il y a une expo à faire, selon l'expo, ben hop, je pars.
Alors. Quand même, un petit commentaire sur ces façades, parce que moi je les découvre, hein, je les avais pas encore vues, les façades de garage, mais pas seulement. Comment vous procédez pour les faire, ces façades ?
Donc là, ça c'est des photos un peu que je trouve peintes et tout ça, que je découpe, je photocopie et je recolle ça sur du carton. Et puis après je les monte. Et puis je refais mon diorama selon mes envies. Je dispose ça selon mes envies, avec les petits trucs en plus, tout ce que je trouve dans les débarras, puis c'est parti.
Alors, en tant que collectionneur, je suppose que vous cherchez les véhicules, mais peut-être qu'à l'intérieur des véhicules, il y a des véhicules qui sont peut-être siglés ou de couleurs spéciales. Le collectionneur doit être attentif à tout ça, je suppose.
Ah bah oui, surtout, y a les véhicules de publicité qu'on appelle. Ouais. Les anciennes publicités, ça c'est recherché plus, parce que c'est vrai que... Puis certains véhicules qui sont sortis à pas beaucoup d'exemplaires, à 200-300 exemplaires. Donc là, c'est là où on cherchait plus, parce que malheureusement, on a beaucoup de mal à y trouver.
Par exemple, le type de pièce que vous seriez susceptible de chercher est très difficile à trouver.
Difficile à trouver, eh ben, rien, une 309. Pourtant, c'est quand même pas si vieux que ça. Peugeot 309, c'est pas si vieux que ça. Eh ben, on a beaucoup de mal à en trouver. J'en ai quelques-unes, mais c'est difficile à trouver. C'est quand même une folie, ça. Alors qu'on va trouver une Simca 1000, un truc comme ça, et une 309, on en trouve pas.
Et juste une question. Moi, j'ai longtemps cherché ma première voiture. C'était une NSU 1000. Et j'ai cherché, et je crois qu'elle n'existe pas. Vous pouvez me confirmer ?
Je confirme, j'en ai pas. J'en ai pas, et c'est vrai que j'ai cherché déjà, et c'est presque introuvable. Bon, les seules qu'on m'a trouvées, elles vont être à vendre, mais alors,
à
un prix exorbitant. Mais c'est vrai qu'on en trouve pas.
Alors, combien de véhicules à la maison ?
Là, en ce moment, 2787.
Et vous les sortez de façon régulière, en plus, on peut le rappeler, sur des vitrines ici, sur des commerces en centre-ville.
Voilà, sur des commerces, là, donc j'étais avant aux Alpes-Mancelles, donc ils ont déménagé, ils n'ont plus de vitrines. Et donc maintenant, j'ai juste traversé la route, comme on dirait certains. Et là, je suis chez Nathalie Coiffe, qui m'a dit, si ma vitrine te convient, moi, je veux bien que tu exposes. Alors, donc tous les mois, j'expose un petit peu de véhicules.
Okay. Donc, voilà. Eh ben, c'est parfait. En tout cas, c'est toujours un plaisir de voir ces véhicules, que ce soit en vitrine ou même ici.
Merci beaucoup,
Dominique.
Dans la bagnole de mon père, quand j'étais encore qu'un gamin, ça roulait pas tranquille, pépère, mais pas non plus au frein à main. Moi, tout petit, derrière la vitre, je voyais défiler la nature. J'adorais déjà faire le pire, faire des grands signes aux autres voitures. Faire des grands signes aux autres voitures. Et puis on jouait au jeu des plaques pour apprendre les départements. Maintenant je sais que le 24, c'est la Dordogne évidemment. Grâce à la mémoire de ma mère, dans la bagnole de mon père. Grâce à la mémoire de ma mère, dans la bagnole de mon père. Dans la bagnole de mon père. Dans la bagnole de mon père, sur la route de nos vacances, on se frittait fort à l'arrière pour choisir les radiofréquences. Mais on était toujours d'accord pour un petit Brel, un Jean Ferrat. Nos vieilles cassettes collector, société, tu les auras pas. Société, tu les auras pas. Et nous on chantait pas qu'un peu la poésie des grands auteurs. Et c'était peut-être notre meilleur jeu de tous les réciter par cœur. Comme des marioles entre frères dans la bagnole de mon père. Comme des marioles entre frères dans la bagnole de mon père. Dans la bagnole de mon père. Dans la bagnole de mon père, on avalait des kilomètres. Et puis j'écrivais en hiver, avec la buée sur les fenêtres. Et quand ma raquette de tennis devenait la plus belle des guitares, je me la jouais Jimi Hendrix, je me prenais pour une rockstar, je me prenais pour une rockstar. Dans la bagnole de mon père, depuis que je suis beaucoup moins gamin, ça roule un petit peu plus pépère, ça perd un petit peu le coup de main. Ils se rendent bien compte que le temps qu'on gagne à rouler plus vite, ils le payent ensuite content, puisqu'ils consomment plus solide, puisqu'ils consomment plus solide. Moi pour éduquer mon marmot, le jour où ma clo m'en fait un, je l'attacherai au siège auto et je l'emmènerai sur les chemins vers une école buissonnière dans la bagnole de mon père. Vers une école buissonnière dans la bagnole de mon père, dans la bagnole de son grand-père, dans la bagnole de mon père, dans la bagnole de mon père.
Monsieur Malherbe, bonjour. Vous venez de Conly, je crois.
Bonjour, oui, oui. Je suis où est-ce que le mécanicien pratique de toutes les réparations à Conly, quoi.
Voilà, ouais. Donc Conly, pas loin de Vintage Car, voilà. Géographiquement, en point GPS. Vous êtes venu, les autres fois, vous veniez avec une Panhard, et là, vous êtes venu avec une 404, une magnifique 404. De quelle année?
Et de 62. 62, c'est la deuxième année qu'ils commençaient à faire la 404, quoi. Mais de dessus, si vous voulez, il y a pas mal de pièces de 403. Hein.
C'est-à-dire que...
Comme c'était les toutes premières, alors donc, ils ont... C'est-à-dire que pour changer, c'est-à-dire que pour les pièces nouvelles de 404, ça a commencé en 66. Hein, parce que c'est, après ça, c'était tout à fait le même modèle, mais avec leurs pièces d'origine, quoi. Hein, voilà, quoi.
Alors, cette 404, elle a été utilisée de façon assez particulière. Il n'y a pas si longtemps que ça. Racontez-nous cette histoire.
Oui, bien, c'est-à-dire que c'est le 12 juillet l'an dernier, quoi, en 2018, il y a eu un film qui a été tourné au Mans, hein, dans le Vieux-Mans, c'est-à-dire sur l'année 66. Hein. Alors donc, c'est un Américain qui a fait ce film-là, quoi, avec pas mal de voitures. Alors donc, de mon groupe, nous étions 5 voitures. Hein. Alors donc, par mon président qui a été contacté, quoi. Avec une société de Paris, quoi. Alors donc, que voulez-vous, on a suivi, quoi. Ce film, il a duré toute la journée, hein. Alors donc, à 10h, fallait être présent. Puis ma journée était terminée à 2h30 du matin, quoi.
Donc, une compagnie qui tournait un film avait besoin de 404, de Panhard, enfin de véhicules des années 60. Alors, c'était quoi le thème du film? Parce qu'il sort bientôt, je crois.
Ce film-là, c'était sur les 24 heures du Mans, quoi.
Hein. De quelle année, donc?
C'était en 66. Voilà, en 66, d'accord. Oui. Alors donc, parce qu'il y a eu, mais je me rappelle pas bien, il y a eu un problème entre deux voitures. Hein. Oui. Alors donc, c'est là, c'est sur ce sujet-là, mais bon, là, je m'en rappelle pas. Hein. Vu mon âge, je me rappelle pas de tout. Hein.
Et alors, la 404, elle a roulé ou c'est une actrice du film, alors, finalement?
C'est-à-dire que la 404, elle-même, elle est dans le film. Elle a tourné pas mal, même dans le Vieux-Mans, même dans le Mans, peut-être. C'est-à-dire que j'ai fait mon plein et m'ont consommé un quart d'essence.
Hein. Mais c'est pas vous qui étiez au volant, par contre, c'était des acteurs?
Par contre, c'était pas moi. On prêtait notre voiture, quoi. Et en plus, après ça, j'avais ma Panhard. Elle était figurante. Parce que, bon, ben, je ne l'ai pas présentée parce que c'est une voiture question moteur. Vous savez que c'est assez difficile, c'est délicat, quoi. Alors donc, elle, je l'ai déplacée d'un coin et de l'autre. Et puis voilà, quoi.
Ah, vous avez, vous, en collection, donc, combien de véhicules? Ces deux véhicules-là?
J'ai deux véhicules et un Solex, quoi.
Ah, il y a un Solex aussi?
Un Solex aussi, oui.
Alors, un Solex d'origine retapé, qui roule bien?
Qui roule très bien, c'est pareil, oui, oui. Avec deux Solex, j'en ai fait un, quoi.
Voilà. Très bien. Eh ben, on vous remercie pour toutes ces explications. Et donc, cette 404, on la verra dans le film Le Mans
66. Le Mans 60, c'est Le Mans 66 à présent. Mais je pense que est-ce que ça sera encore le même film? J'en sais rien. Alors, donc, ce film, il doit sortir en juin. Hein, et par oui, mai ou juin, et secondo, après ça, il sortira en Amérique un mois plus tard, quoi.
Votre voiture va être célèbre.
Voilà, oui.
C'est formidable. Et pour qu'on la repère dans le film, si on veut, elle, comment on peut distinguer la couleur que...
Eh bien, c'est-à-dire que la couleur, elle est un peu jaune, quoi. C'est, oui, oui.
Un peu amande, oui.
Ah, oui, un peu amande, quoi. Mais c'est-à-dire que cette voiture-là, lorsqu'elle est dans un coin et dans l'autre, elle est toujours très bien remarquée. Hein.
D'accord. Mmh. Elle est magnifique, en tout cas. Voilà. Oui, oui. Merci, monsieur Malherbe.
De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette, on est heureux, National 7.
Alors Franck, là on est devant une Américaine. Voilà, ça fait partie des gros fantasmes pour toute personne qui s'intéresse aux véhicules anciens. Ce sont ces grosses américaines. Ça, c'est une Cougar Mercury. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette voiture?
Alors, cette Mercury Cougar, c'est un véhicule que j'ai acquis il y a à peu près 2 ans maintenant. C'est un véhicule qui est une Mustang améliorée. Donc, c'est un châssis Mustang avec un V8 qui est un 302 CI, 350 chevaux, boîte automatique 3 vitesses. La Mercury Cougar est sortie en 1968 car la Mustang était le véhicule du peuple et les cadres qui arrivaient au niveau de la population ne voulaient pas rouler en Mustang. Et donc Ford perdait des clients tous les jours au profit de Pontiac, Chevrolet. Et donc la Mercury Cougar est un véhicule qu'on pourrait comparer à une Audi quand Audi a racheté Skoda. Voilà, c'est d'accord. Une différence importante par rapport à une Mustang. Nous avons la direction assistée, les freins assistés et un intérieur cuir et une finition très haut de gamme.
Donc c'est le confort intérieur, c'est la qualité mécanique qui en fait une voiture donc supérieure à la Mustang que nous on considère déjà comme une belle voiture. Hein. Donc c'est une voiture à l'époque qui était donc destinée, vous l'avez dit, aux catégories les plus aisées. Ça valait quoi aux États-Unis à l'époque? Tout le monde pouvait se payer cette voiture-là? Fallait vraiment avoir des gros revenus?
Non, à l'époque, une Mustang valait 810 dollars et une Mercury Cougar 1810 dollars. Il y avait 1000 dollars d'écart, donc c'était vraiment le double du prix d'une Mustang.
Est-ce que la différence se retrouve aussi, par exemple, sur la qualité de carrosserie? On ne l'avait pas évoqué.
Alors, elle est un peu plus longue et un peu plus large qu'une Mustang. Elle a surtout un gros avantage, c'est qu'au niveau de la barre de torsion, on est 4 fois supérieur à une Mustang. On a une stabilité au niveau de la tenue de route que n'ont pas les Mustangs et un train arrière modifié.
Alors Franck, pour récupérer cette voiture, il y a 2 ans, vous m'avez dit, c'est ça, vous êtes allé la chercher où?
Alors c'est une voiture que j'ai récupérée au Mans, c'est assez paradoxal. Je cherchais une Mustang et je suis tombé sur cette Mercury qui était un véhicule qui m'a plu parce qu'elle était différenciante par rapport à une Mustang qui est aujourd'hui un véhicule, je dirais, plus répandu sur le marché français.
Les pièces, faciles à trouver pour une Mercury?
Idem une Mustang, il y a des sites aux États-Unis qui nous permettent d'accéder à tout type de pièces, de la carrosserie jusqu'au vitrage.
Vous faites beaucoup de sorties, c'est une voiture que vous emmenez loin de chez vous?
Oh, je fais des sorties, j'arrive à faire des sorties jusqu'à 500-600 km loin de la maison. Le moteur est neuf, la boîte de vitesse est neuve, donc on est en pleine sécurité avec un véhicule comme celui-là.
Qu'est-ce que vous pensez de cette réunion ici qui se déroule maintenant une fois par mois à Ciel-Guillaume?
Bah écoutez, je trouve que c'est des initiatives intéressantes, ça permet de sortir nos véhicules, de faire partager nos passions. On est surtout ici sur un rassemblement plutôt français, plutôt de véhicules français. Mais ceci dit, c'est toujours bien d'arriver avec une américaine dans un univers français.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on est allé vers vous, parce que l'américaine, c'est aussi une partie fantastique. Vous en avez d'autres, des véhicules, soit d'origine américaine, soit d'autres origines?
Alors j'ai une Mini préparée de 1968, et j'ai une Mercury, une Jaguar MK2 de 1960, enfin 2.4 qui est en cours de réflexion.
Alors c'est quoi ce véhicule là?
Un Renault 2087.
Alors c'est-à-dire que c'est un véhicule militaire puisqu'on n'a pas l'image donc on ne le voit pas. Et qui servait donc à quelle époque en fait?
Des années 60, l'année 63.
Il est 63, juste après la guerre d'Algérie finalement. Donc il y en a qui ont servi en Algérie.
Oui.
Vous pouvez nous présenter un petit peu ce véhicule, nous dire voilà ce qu'il est, comment il est fait, ce qu'il y a comme moteur.
J'ai acheté en 2001 moi.
Il était en quel état?
Très mauvais.
C'est-à-dire, il était rouillé et tout?
Non, pas tant que ça. Mais bon, il fallait refaire les freins, il fallait refaire les phares, il n'y en avait plus, il était cassé. Et puis abîmé, et puis bon, il y a plein de trucs, quoi. Plein de petites bricoles, quoi.
Et donc, ça vous a demandé beaucoup de temps pour refaire? Ouais, vous l'avez refait tout seul?
En 2002, je l'ai acheté en fin 2001. Mm-hmm. J'ai passé presque l'année en 2002. En 2003, il partait sur la route.
Et ça roule sans problème sur la route, carte grise et tout, sans difficulté?
Oui, oui, j'ai tout ce qu'il me faut, il est assuré et tout, sinon je ne roulerai pas.
Donc c'est un Renault, c'est ça vous m'avez dit?
Oui, un 2087 N.
Donc qui est dérivé des goélettes ou...
Avec un moteur sur les roues, c'est ça.
C'est la goélette en fait?
C'est un 4x4.
C'est un 4x4, oui. Et donc, ce véhicule, tiens, par exemple, aujourd'hui on parle beaucoup de consommation de carburant, ça t'aide combien quand ça roule?
8 à peu près.
C'est pas tant que ça finalement?
Non, parce que je fais pas de tout terrain avec moi.
Ah oui, voilà, vous roulez
sur de la route.
Vous roulez sur les routes, oui. Okay. Oui. Et c'est quoi le point sensible, le point fragile? Y en a ou pas?
Il faut faire attention, la direction est assistée à l'huile de coude.
Ah oui, c'est pas assisté, oui.
Il n'y a pas de glace, il n'y a que la clim, quoi.
Ah, il n'y a pas de glace, oui, c'est ça, oui. Ah oui, donc l'hiver.
Non, mais c'est la clim. Elle marche bien, la clim.
Okay. Qu'est-ce que ça vaut un véhicule comme ça, aujourd'hui si vous aviez à le revendre à quelqu'un, qu'est-ce que ça vaut? Parce qu'il est en bel état.
Il n'y a plus rien à y faire. Tu vas mettre de l'essence et puis c'est tout.
Ouais.
Bah, faut compter dans les 7000, 6-7000, peut-être même plus. Mais enfin,
Oui. Oui, finalement, c'est pas plus que ça. Donc, c'est peut-être pas été recherché, les véhicules militaires.
Pas mal sur l'ordinateur, sur dans ces prix-là, 3000, 6000, 7000, ça dépend. Mais encore, ils sont moins bons que ceux-là. Bon, donc celui-là, ils vont dire un peu plus cher, entendu.
Vous êtes du secteur ici, non?
Non, pas à Paraine, j'habite.
Vous êtes sur Paraine. Et vous avez d'autres véhicules anciens?
Oui, j'avais la Opel Manta, là.
Ah, la dernière fois?
Oui. D'accord. Alors, j'ai changé ce matin, j'ai dit, j'ai venu deux fois avec, bon, je vais changer.
Et le Pelmanta, pourquoi? Donc c'est un modèle des années 70-80, ça?
80, ma Manta.
Ouais. Et pourquoi vous avez choisi le Pelmanta? Il y a une raison.
C'est parce que j'ai trouvé comme ça.
Ah oui, c'est le hasard.
Oui.
D'accord.
J'ai pas cherché tellement.
D'accord. Eh bien, on va vous laisser donc continuer à présenter votre véhicule qui attire, on peut le dire, l'œil. C'est vrai qu'il est beaucoup plus haut que tous les autres. Hein. Allez.
Vous pouvez monter. Hein.
je vais le faire. Tiens,
vous mettez une pied là, vous montez. Ça va être plus facile.
Alors, attendez. Hop, on monte là. On met le pied ici.
Montez le pied là,
hop, on monte.
sens là. Hop. C'est qu'il n'est pas très souple le gars. Voilà.
Hop.
Faut lever la patte. Hein.
Faut lever la patte. Oh la vache, c'est pas très confortable.
Yannick, bonjour.
Bonjour.
Alors ici, vous êtes avec un utilitaire. Il n'y en a pas des tonnes d'utilitaires présents, mais celui-là, il est mythique. C'est le fameux tube Citroën. Alors, un mot sur ce véhicule qui n'a pas en fait ce vrai nom. Il a un autre nom.
Ouais, le HY, le tube, le nez de cochon, aussi on dit. Non, c'est le vrai nom, c'est HY.
Alors, c'est un véhicule de quelle époque? Vous l'avez dégoté où?
1972. J'ai dégoté dans une grange, j'étais sous la paille et tout, et je l'ai remis en route, quoi. Puis voilà. Ça fait 15 ans que je l'ai, et il roule super bien.
Et donc vous l'avez retapé tout seul?
Ouais, je l'ai rebricolé tout seul.
Comment vous avez fait? Vous avez pour retrouver les pièces et tout, leur en faire quelque chose de bien roulant?
On retrouve bien encore les pièces, hein, partout. Il y a plein de sites qui vendent des pièces, quoi, donc c'est bien.
C'est-à-dire qu'il y en a eu beaucoup de ces véhicules. À partir de quelle époque il a été construit ce véhicule? Pour les gens qui voient pas très bien, c'est ce véhicule qui a le petit nez avancé et très coupé avec le gros logo Citroën devant, avec le côté vraiment tôle, quoi. Voilà, donc on peut pas le rater. Hein, il est vraiment très caractéristique. Donc oui, alors vous, qu'est-ce qui vous a amené sur ce véhicule?
Ouais, la passion de la deux chevaux, de
Citroën.
Ouais, ouais, parce que ça moi aussi la deux chevaux là.
Ah oui, d'accord.
Et j'avais une deux chevaux et puis j'ai acheté un H pour pouvoir dormir dedans quand on va dans les concentres, quoi, parce que ça permet de
monter de temps. Il vous sert de van en fait.
Voilà.
Incroyable. Alors les points fragiles de ce véhicule.
Le moteur, la boîte de vitesse, c'est assez fragile, il faut faire attention, quoi. Sinon, ça marche très bien. Hein.
Donc là, il est de quelle année, celui-là? Il 72. Dit 72. Ouais, 72. En quelle année on a commencé à faire ces véhicules?
Je voudrais dire des bêtises, je sais plus du tout.
C'est de l'après-guerre
Ouais, dans les années 50.
Les années 50, ouais.
Les premiers, ouais. Et ils ont été faits jusqu'en 83, je crois, ou 82.
Et la conduite, elle est particulière,
c'est,
non?
C'est assez particulier.
Expliquez-nous un peu.
Il n'y a que trois vitesses déjà, donc c'est assez compliqué. Le volant n'a pas de direction assistée, donc c'est vachement dur. Mais sinon, ça se conduit très bien, quoi. C'est sympa.
Alors donc vous avez...
Le bruit aussi, il y a beaucoup de bruit, quoi.
Ça vibre aussi pas mal à l'intérieur.
Parce que c'est un diesel, donc ça fait.
Ah, c'est un diesel?
Ouais.
72, mais avant c'était des essences.
Il y a eu des essences et des diesels jusqu'à la fin. Ouais.
C'est un des derniers, 72, non?
Non, 81 et dernier, 82, je crois.
Ah oui, ouais. Ça a duré quand même longtemps. Donc, ouais. vous avez ce tube Citroën, vous avez les deux chevaux,
ouais.
D'autres véhicules aussi?
Ouais, j'ai une 403 aussi, j'ai une 504, j'ai plein.
Donc vous êtes un passionné de voitures en fait,
oui. Ouais.
Et votre point de vue sur ce petit rassemblement ici, c'est la première fois que vous venez?
Non, deuxième fois, ouais. Deuxième fois, c'est sympa, hein. C'est bien. C'est bien organisé, c'est bon, il y a de la belle voiture et tout, c'est bien.
Quand le babacool Cradock est sorti de son bus Volkswagen, qu'il avait garé comme une loque devant mon rad, j'ai dit à Bob qui était au flip, viens voir le mariole qui se ramène, vise la dégaine, quelle rigolade. Patchouli, Patogas, le guide du routard dans la poche, Hare Krishna à mort, cheveux ouénés, oreilles percées, tu vas voir qu'à tous les coups, il va nous taper 100 balles pour se barrer à Katmandou ou au Népal. Avant qu'il ait pu dire un mot, j'ai chopé le mec par le paletot. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre.
Monsieur Desormeaux, bonjour. Vous êtes ici avec une 4L de type utilitaire. Et sur cette 4L, eh bien, il y a Rêve, l'association qui réalise les rêves des enfants très gravement malades. Expliquez-nous un peu le lien entre les voitures, ces 4L, et puis l'association Rêve.
Eh ben, le lien, c'est de récolter des fonds pour réaliser des rêves aux enfants gravement malades. Et on essaye de réunir le plus de fonds possible. Et puis, on réalise des sorties de voitures anciennes et ça. Et moi, je fais partie de Rêve en bénévole.
Alors, comment ça marche pour récupérer des fonds, justement?
Eh ben, on organise des journées et des soirées, des réunions de voitures anciennes. On fait des petites tombolas, histoire de récupérer pas mal de fonds pour réaliser les rêves aux enfants. Et il y en a qui ont bénéficié des rêves à Euro Disney, aller voir des matchs de foot, aller voir des grandes vedettes.
Et donc, quand vous venez ici, c'est d'une part pour sortir avec votre voiture, oui, mais aussi pour faire connaître cette association.
Oui, voilà, pour faire connaître. Et puis, bah, je distribue un petit peu de tracts pour venir nous retrouver à la sortie du 25 mai. Venez nombreux.
Ça se passe où, le 25 mai?
À Montfort-le-Génois, au Pont Romain. Et il y a une soirée, ça s'arrête à 22h. On a un accordéoniste qui vient faire une petite animation de 18h à 22h.
Et là, pas forcément des vieilles voitures, là.
Toutes voitures sont réunies, même des vieilles. On a un monsieur qui vient avec des vieux camions aussi.
C'est la première fois que vous venez ici sur ce rassemblement?
Non, moi, ben, je suis venu au début. C'est le troisième.
En janvier, alors?
Oui, en janvier, je suis venu ici. Et puis, ben, le troisième dimanche du mois, on sait que c'est organisé ici, alors on vient faire un tour.
Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance ici?
Ben, l'ambiance est bien, et puis le fait déjà d'organiser le petit truc sympa, là, d'avoir organisé la dégustation de rillettes et tout, c'est super. Et puis d'être invité à boire un petit café, c'est convivial, et puis c'est gentil de la part de l'organisation, puis avec le gars qui organise aussi. Et puis ben, là, même le troisième dimanche, on est quand même encore du monde, c'est bien.
Aux environs des belles années 1910, lorsque le monde découvrait l'automobile, une pauvre femme abandonnée avec ses fils par son mari qui s'était enfui à la ville. Dans une superbe Panhard et le Vassor qu'il conduisait en plein essor, lui écrivait ses mots d'espoir en pensant que peut-être un soir il reviendrait tout comme avant. Au lieu de partir dans le vent, je t'attendrai à la porte du garage, tu paraîtras dans ta superbe auto. Il fera nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Nous partirons sur la route de Narbonne, toute la nuit le moteur frambrira, et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Le lendemain, toutes ces randonnées nous conduirons peut-être à Montauban. Et pour finir cette belle journée, nous irons nous asseoir sur un banc. Quel programme elle avait trouvé là? L'époux volage, hélas, ne revint pas si tôt, escamoté par son nuage de poussière, courant partout, Nice, Paris, Paris-Bordeaux, sans se soucier de sa famille dans l'ornière. Il courut ainsi pendant plus de 40 ans, et puis un soir, tout repentant, il revint voir sa belle d'antan qui avait appris à ses enfants ce refrain que les larmes aux yeux, il répétait au de bon vieux. C'est la minute d'émotion. Ah, quel bonheur à la porte du garage, quand tu parus dans ta superbe auto, papa. Il faisait nuit, mais avec l'éclairage, on pouvait voir jusqu'aux flammes du coteau. Demain, sur la route de Narbonne, toute la nuit, le moteur vrombrira, et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Pour terminer ce voyage de poète, et pour fêter ce retour du passé, nous te suivrons tous deux à bicyclette, en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser.
Une belle manifestation sur la commune de Saint-Rémy de Sillé, oui, disons-le. Et le maire de Sillé, Guillaume, est là. Alors, Gérard, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous ressentez sur des manifestations de ce type-là?
Alors déjà, j'étais là la première, il y a un mois. Hein, et puis là, aujourd'hui, il y a le printemps des Rillettes en plus. Donc, en tant que chevalier de la confrérie des Rillettes, c'est tout à fait normal que je sois présent, mon cher Eric.
Alors, c'est plus les Rillettes ou les voitures?
Les deux. Moi, j'admire toujours les personnes qui arrivent à restaurer, qui ont cette passion, qui cette connaissance, parce qu'il faut avoir la connaissance de carrosserie, il faut avoir un peu de sellerie, l'intérieur, il faut avoir surtout la connaissance mécanique et de savoir. Ça manque totalement. Là-dessus, je suis entièrement nul. Faut dire la vérité. Mais moi, j'admire les gens qui arrivent à restaurer, qui à garder dans leur jus. Là, il y a une 205 qui est dans son jus d'origine que j'ai connu. C'est ma jeunesse. Il y a des voitures il y a 30 ans, 35 ans. Hein, mais c'est vraiment très beau avec les sièges en baquet qui sont nickel. C'est vrai, c'est vraiment très beau à voir. On en prend plein les yeux.
C'était quoi votre première voiture?
Oh là! Tu veux dire celle que j'ai cassée?
Comme tout le monde, on a tous cassé une voiture dans la première année.
Moi, j'ai eu une Opel, j'ai eu des 1300, des Simca 1300. Moi, j'étais pas un fanat de voiture. La voiture, vraiment, pour moi, je la considère comme un moyen de. Mais bon, aujourd'hui, hein, j'ai toujours une voiture à 18 ans, donc je suis pas.
Je sais, mais elle roule bien, je sais.
Et elle roule très bien. On a tous fait des conneries dans notre jeunesse. Hein. Voilà, mais bon. Mais aujourd'hui, quand on se rappelle de ça, c'est quand même pas. Hein, on se dit qu'est-ce qu'on était cons.
Donc finalement aujourd'hui ces voitures sont là. C'est un petit côté nostalgie qui y a chez les gens. C'est un peu de la jeunesse. Pour vous c'est un peu la même chose?
Oui, je pense que toutes les personnes qui sont ici, il y a sûrement des passionnés, mais il y a cette nostalgie de revoir des. Là j'aperçois une coccinelle, tu vois. J'aperçois une Simca 1000, tu vois. C'est vraiment notre jeunesse et puis là, un peu la nostalgie de revoir ces voitures. Et puis il y a toujours la traditionnelle de chevaux. Hein,
elle a le vent en poupe. Hein.
Elle a vraiment le vent en poupe. Alors je ne sais pas si le record, il y a place de la République au Mans, il y avait un cafetier qui avait promis une prime si une deux chevaux arrivait à se renverser autour de la place de la République. Mais ça c'est vieux parce que maintenant on ne peut plus la faire.
Impossible.
et je crois qu'il n'y a jamais eu de chevaux à se renverser.
Bon alors voiture, confrérie des Rillettes. Un mot, c'est quoi la confrérie des Rillettes? Ça fonctionne comment?
La confrérie des Rillettes, c'est une très bonne chose. On fait la promotion de notre territoire sartois. On fait la promotion d'un produit et les Rillettes de la Sarthe, bien entendu, sont connues presque dans le monde entier. Hein. Et la confrérie des Rillettes, c'est une association, c'est une confrérie et qui va se déplacer dans toute la France pour assurer cette belle promotion de la Rillette. Et puis maintenant, il y a plein de dérivés de la Rillette. Hein. On sait très bien qu'il y a des recettes, il y a même des grands cuisiniers qui mettent à leur menu des recettes avec de la Rillette.
Et juste pour provoquer, l'omelette aux Rillettes. Comment vous faites l'omelette aux Rillettes? Parce qu'on n'a pas la même méthode.
Ah oui, on n'a pas la même méthode. Alors je vais répéter l'omelette aux Rillettes. C'est pas ma recette, c'est celle du Pile d'Hiver. C'est celle de Jean-Pierre Godemer qui m'avait appris. Alors, on fait notre omelette, on bat nos œufs, on fait fondre les rillettes tout doucement, à feu très doux, de manière à les dégraisser. On les passe dans un chinois hein, pour bien enlever la rillette. On rajoute dans l'omelette un petit peu de calva, bien entendu. Hein. On fait notre omelette, on met nos rillettes, on fourne nos rillettes et on sert ça avec une salade, bien entendu.
Voilà, oui, pour faire léger.
Ah, bien sûr.
Quelle hypocrisie quand même de mettre la salade exprès pour la léger.
C'est la contrepartie justement de l'omelette aux rillettes.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence.
passe, alors pourquoi penser au lendemain?
Si votre radio fréquencier vous a donné l'envie d'aller au prochain rendez-vous des voitures anciennes organisé par Vintage Car et l'atelier Jantaine, ce sera le troisième dimanche du mois d'avril. On y croisera l'histoire locale, puisque nous y évoquerons et illustrerons le centenaire de la venue de Charles de Gaulle à Sillé et le camp polonais. Donc, nous y serons. À bientôt.
You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son.